Seigneur, nous voulons te rendre grâce, nous voulons te bénir pour cette autre occasion que tu nous donnes, Seigneur, d'être rassemblés dans ta présence afin d'élever ton nom, afin de te célébrer, mais aussi, Seigneur, afin de recevoir de toi. Nous te demandons, Seigneur, de prendre contrôle de tout ce qui va être dit, de tout ce qui va être partagé dans les prochains instants. Que tu sois, Seigneur, à l'avant-poste, Seigneur, de toute parole qui sera prononcée et que tu puisses aussi, Seigneur, oindre ces quelques instants par ton onction, Seigneur, par ton Esprit Saint, afin que la parole qui sera partagée puisse trouver une terre qui lui soit propice, une terre qui lui soit appropriée, afin, Seigneur, que s'enracinant profondément en nous, elle puisse croître et porter un fruit qui te sera agréable jusque dans l'éternité. Nous bénissons, Seigneur, nos frères, nos sœurs qui sont présents et présentes ici ce soir. Nous bénissons aussi, Seigneur, ceux qui sont au loin, qui nous écoutent, Seigneur, à travers la technologie, et ceux, Seigneur, même qui entendront cet enseignement dans les prochaines heures, dans les prochains jours, ou même, Seigneur, plus tard, qu'une même onction déferle sur nous et sur eux, et qu'en toute chose, que toute la gloire, que tout l'honneur te revienne à toi et strictement qu'à toi. Nous t'avons prié dans le précieux et glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. On peut s'asseoir. Juste demander le frère Lionel si tu peux enlever les moniteurs. Merci. Alors que Dieu vous bénisse, on est content d'être là ce soir. On va ouvrir nos Bibles dans Hébreux au chapitre 4. Pour ceux qui nous suivent le matin, vous savez que c'est le verset thème pour cette semaine. On poursuit un peu la prédication du pasteur Sergio qui a été donnée ce dimanche. Donc dans Hébreux au chapitre 4 et on va lire ensemble le verset 12. La Bible nous dit, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Je répète pour vous le verset. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Alors que le Seigneur bénisse sa parole ce soir. À l'instar du pasteur Sergio, comme je disais un peu plus tôt, qui a enseigné sur ce passage, on a aussi étudié lors de nos bénédictions matinales d'il y a un mois ou deux, lorsqu'on faisait le survol de tous les symboles qui nous sont donnés à travers la Bible concernant la parole de Dieu. Et on voyait qu'un des symboles, qui est peut-être un des symboles très courants, c'est celui de l'épée, la parole de Dieu comme épée entre les mains du croyant. On le voit notamment dans Éphésiens au chapitre 6, lorsqu'on parle de l'armure de laquelle doit se revêtir le croyant, on nous parle au minimum d'une arme qui est à la fois défensive et offensive, et on nous dit que c'est la parole de Dieu. Ici, dans Hébreux, on va parler de l'épée, de la parole de Dieu, comme étant non seulement un instrument qui pourrait être un outil, mais aussi qui est une arme. On le voyait ce matin lors de la bénédiction matinale. Lorsqu'on parle de l'épée, on parle du terme grec makaira, qui veut dire un large couteau, qui veut dire une petite épée, et qui veut dire un couteau pointu. Et l'idée qu'on faisait ressortir ce matin, c'était que cette épée que nous avons entre les mains, qui s'appelle la Bible, qui s'appelle la parole de Dieu, va essentiellement avoir trois utilités importantes. La première, percer. On prenait l'image d'un couteau qu'on utilise, et à la base même du travail du couteau, la première fonction qu'il va faire, c'est qu'il va venir percer dans une pièce de viande ou dans un légume ou quoi que ce soit. Donc, il va percer. Par la suite, il va être capable de séparer la pièce de viande en deux morceaux minimum. Et plus on couple, plus on sépare. Et enfin, il va aussi exposer l'intérieur de la pièce de viande. Et on disait, c'est trois fonctions importantes de la parole de Dieu. Tout d'abord, elle va percer. Elle va venir pointer les sections de notre vie qui doivent être touchées, qui doivent être modifiées, qui doivent être changées. Par elle.
Par la suite, elle va séparer.
Elle va séparer ce qui est bien de ce qui est mal. Lorsqu'on retourne toujours dans les questions du grec et de l'hébreu, on se rend compte que le terme sanctifié, à la base, veut dire séparer. Quelque chose qui est sanctifié, c'est quelque chose qui a été séparé de ce qui était mal.
Et la parole de Dieu,
assurément, et cet instrument que Dieu va utiliser pour que dans notre cœur, dans notre âme, dans notre esprit, dans notre vécu de tous les jours, on sache séparer ce qui est bon de ce qui est mauvais. C'est la parole de Dieu qui va nous dire quoi abandonner, quoi adopter comme comportement, comme attitude. C'est la parole de Dieu qui va venir réformer notre façon de vivre, notre façon de nous comporter. Alors oui, c'est la parole de Dieu qui va non seulement percer dans nos cœurs, percer outre cette cuirasse qu'on a souvent bâtie autour de nous, qui empêche parfois la parole de Dieu de nous parler. Quand à un moment donné, Dieu veut dire « j'ai besoin de te parler, j'ai besoin de te dire quelque chose », cette parole va avoir la pointe utile pour venir percer dans nos murailles, va venir séparer ce qui est bon de ce qui est mauvais, et va exposer la réelle nature de ce que nous sommes. Je disais ce matin, comme je suis amateur de cuisine, je disais, ben, pour voir comment une viande a été cuite, on peut, oui, la tâter de l'extérieur, on peut essayer de la regarder de l'extérieur, puis en se disant, ben, si la couche externe est de telle couleur ou à telle apparence, ça se pourrait que ce soit cuit à point ou peut-être un peu trop ou peut-être pas assez. Mais le seul moyen d'en avoir l'assurance complète, c'est essentiellement en coupant et en regardant à l'intérieur. Et la parole de Dieu va avoir cet effet de révéler à chacun d'entre nous le réel état de notre âme, le réel état de notre être profond. Parfois, on peut cacher tout un tas de choses aux gens qui nous entourent. On peut avoir l'apparence d'être adéquatement développé, d'être adéquatement formé, d'être dans une situation appropriée devant Dieu, d'être sanctifié. Et pourtant, si la parole de Dieu venait à exposer l'intérieur de nos cœurs, régulièrement, on serait probablement un peu moins fier qu'on l'est assez souvent. Et la parole de Dieu, effectivement, va venir nous exposer avec la réalité de notre être. En nous disant, mon fils, ma fille, voilà ce que je constate chez toi. Voilà aussi ce que tu dois changer. Voilà ce que tu dois abandonner. Et il est important de laisser à la parole de Dieu l'occasion de nous confronter, l'occasion à la parole de Dieu de venir nous parler des réalités de notre être le plus profond. Et là, on va s'arrêter sur la prochaine phrase qui nous dit qu'elle va jusqu'à partager l'âme et l'esprit, les jointures et la moelle. Elle va jusqu'à partager l'âme et l'esprit, jointure et moelle. Mais juste avant, on nous dit qu'elle est pénétrante, encore une fois. Le terme pénétrante, c'est le terme dikneomai qui veut vouloir dire être capable de passer à travers une chose, être capable
de passer outre un empêchement, un blocage,
un obstacle.
La parole de Dieu, il n'y a pas un secteur de notre vie qu'elle ne peut pas pénétrer. La parole de Dieu, il n'y a pas une sphère, une phase, un domaine de notre existence sur lequel elle n'a pas quelque chose à dire. Et voilà pourquoi le chrétien devrait toujours être enclin à étudier la parole de Dieu, à se nourrir de la parole de Dieu et à accepter d'être confronté par elle. Dieu a une opinion sur toute chose. Dieu a une pensée sur toute chose. Et Dieu a une pensée aussi toute particulière sur ma vie et sur toutes les sphères de ma vie. Parfois, on pense que, ah, voilà un sujet trop banal pour demander à Dieu qu'est-ce qu'il pense de cela. Il n'y a pas un sujet trop banal lorsqu'on veut effectivement vivre pleinement la vie à laquelle Dieu nous a appelés. Nous avons tous été créés avec un plan, avec un projet, avec une pensée que Dieu avait de toute éternité pour chacun d'entre nous. Mais en pensant qu'il y a des choses qui sont trop banales pour intéresser Dieu, on passe à côté aussi de révélations que Dieu veut nous donner sur notre existence. Alors comprenons effectivement que Dieu veut dire son mot sur toutes les sphères de notre vie. Que ce soit un choix professionnel, que ce soit un choix d'études, que ce soit la fréquentation avec quelqu'un, que ce soit le développement d'une entreprise, que ce soit la décision d'un endroit où on va habiter. Il n'y a pas un secteur de notre vie qu'on devrait passer outre. Le regard, la pensée et le mot de Dieu. Alors effectivement, la parole de Dieu est pénétrante, va aller dans tous les secteurs de notre vie, va percer toutes les murailles qu'on se bâtit, va percer tous les obstacles qu'on veut lui donner pour que Dieu puisse vraiment nous dire ce qu'il pense, ce qu'il désire, ce qu'il attend de chacun d'entre nous. Et il va ajouter, elle est pénétrante jusqu'à partager. Ici, c'est cette idée de quelque chose qui est très pointu et qui va jusqu'à délimiter dans le plus minuscule de son aspect des choses de notre vie par rapport à d'autres choses. Dieu regarde, oui, à l'aspect extérieur de chacun d'entre nous. Dieu regarde aux grandes lignes de notre vie, mais Dieu regarde aussi aux points les plus précis, les plus particuliers, les plus cachés de notre existence. Dieu a un mot à dire sur même ce tout petit secteur que nous sommes les seuls peut-être à connaître, que nous sommes peut-être les seuls à voir. Dieu a aussi un regard perçant. Et autant le regard de Dieu est perçant, les mots de Dieu, la parole de Dieu est tout aussi perçante. Le terme partagé, c'est le terme merismo, qui veut dire division, partition, séparation. Dans la progression du croyant et dans la vie normale du croyant, il y a des choses que la parole de Dieu va partager dans notre vie. On se rappelle de ce verset où Paul va dire qu'on puisse apprendre à découvrir, à discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Et parfois on fait l'erreur de croire que ce qui est bon est non seulement agréable, mais est aussi parfait. Non, Paul parle ici d'une progression. Une progression et une distinction entre ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. On peut faire des choses qui sont bonnes, mais qui ne sont pas nécessairement agréables à Dieu. On peut faire de bonnes choses, mais n'étant pas ce que Dieu nous a appelés à faire, on ne fait pas nécessairement ce qui est agréable à Dieu. On peut faire des choses qui sont bonnes, des choses qui sont agréables à Dieu, mais on peut les faire dans une dimension plus basse que ce que Dieu demandait de nous.
Prenons un exemple
tout à fait caricatural. Le Seigneur dit à quelqu'un ici ce soir d'aller dans l'est du Québec.
Dans le fin fond
de l'est du Québec. Il dit, tu quittes Montréal, un peu comme Dieu l'a fait avec Abraham. Quitte l'endroit où tu es et puis va où je vais t'amener.
Et Abraham commence le chemin.
Il dit, OK, je quitte Montréal.
Et je sais que Dieu m'envoie au fin fond de l'est du Québec.
Mais il s'arrête à Québec.
Bien entendu, Québec
est un peu plus à l'est de Montréal.
Mais assurément,
Québec n'est pas Gaspé ou Percé, qui est complètement à l'est du Québec. Donc, il pourrait avoir fait quelque chose de bien en quittant Montréal, mais ce n'est pas quelque chose de parfait, parce qu'il n'a pas amené la volonté de Dieu à sa completion, à son accomplissement. Et pour nous, c'est donc important de savoir que lorsque le Seigneur va partager, il va séparer dans nos vies ce qui est bon,
de ce qui lui est agréable
et de ce qui lui est parfait.
Et à moins qu'on ne soit
éclairé par la parole de Dieu, régulièrement on va passer outre
le fait de connaître la pensée de Dieu
et on va s'égarer.
Un peu la personne qui dit,
Dieu m'appelle en Chine, mais je vais quand même aller servir Dieu, mais je n'irai pas en Chine.
Ce que tu vas faire est probablement bon,
parce que tu vas aller prêcher,
mais
est-ce que c'est nécessairement là où Dieu voulait t'amener? Est-ce que c'est nécessairement ce que Dieu voulait faire avec toi?
C'est cette parole qui va venir nous secouer, nous ébranler
et séparer de nos vies ce qui doit être séparé.
On sait tous que le péché nous sépare de Dieu.
Et la parole veut retrancher de nous
ce qui nous sépare de Dieu.
Vous rappelez ce verset qui dit, si ta main te pousse à pécher, coupe ta main.
Et assurément, il n'y a personne ici à qui j'invite à prendre un couteau tout à l'heure puis à se sectionner la main.
C'est pas ça.
Mais la parole de Dieu peut te dire quoi abandonner.
La parole de Dieu peut te dire là où tes regards se posent et qu'ils ne devraient pas se poser.
La parole de Dieu peut te dire là où ton cœur chemine
et qu'il ne devrait pas aller.
La parole de Dieu peut te dire là où tu orientes ta vie et tu ne devrais pas y aller.
La parole de Dieu peut te dire aussi ce qui déplaît
à Dieu, même après 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans de cheminement avec Dieu.
Aujourd'hui encore, chacun d'entre nous, on a fait des choses qui déplaisaient à Dieu.
Aujourd'hui encore,
la parole de Dieu peut nous révéler certains péchés de notre vie
qui sont récurrents
et avec lesquels le Seigneur veut qu'on traite
en les coupant,
en les éliminant,
en les sectionnant
de notre vie.
Il va dire que la parole de Dieu va aller jusqu'à partager
âme et esprit.
Âme, c'est le terme psyché,
qui nous parle du souffle de vie,
qui nous parle du centre
des passions,
des désirs,
des émotions.
Quand on parle de l'esprit,
on parle du pneuma,
qui est cette partie distincte qu'on a,
nous, en tant que créature humaine,
qui permet d'être en contact avec Dieu.
Les seuls qui ont cette partie,
c'est nous en tant qu'hommes et femmes.
Cette capacité à communiquer, à communier et à communiquer avec Dieu.
Partie qui a été tronquée,
qui a été abîmée lors du péché originel d'Adam et Ève.
Partie que l'Esprit de Dieu vient renouveler
restaurer et nous permettre à chacun d'entre nous de pouvoir parler et de pouvoir entendre aussi la voix de Dieu. Donc ici, il nous dit qu'il va aller jusqu'à séparer, à partager l'âme de l'esprit.
Sujet
intéressant. Partager l'âme de l'esprit. On a dit que l'âme, c'était le centre des désirs, le centre des émotions, le centre des passions, le centre de ce que j'ai envie.
Le centre de ce que j'ai envie de faire.
Le centre de ce que j'aimerais que Dieu fasse.
Le centre de ce que j'aimerais que
les gens autour de moi fassent.
Ici, on nous dit que la parole va aller séparer
cette section des désirs de l'homme versus
cette section qui rentre en communion avec Dieu.
Régulièrement,
on prend nos désirs pour des volontés de Dieu.
Régulièrement, dans nos pensées, on est mélangé à savoir quelle est la volonté de Dieu. J'ai envie de faire telle chose.
Il y a certaines personnes, parce qu'on a envie de faire telle chose,
ben c'est nécessairement la volonté de Dieu.
Combien de fois le diable nous a eu avec un tel piège?
Combien de fois le diable nous a égaré du chemin que Dieu avait pour nous
parce qu'on s'est basé sur, strictement sur ce que j'avais envie,
ce que je désirais.
Et là, on nous dit qu'une des fonctions toutes particulières de la parole de Dieu
va être capable de discerner ce qui est du cœur,
de mon cœur,
versus
de la pensée de Dieu.
Combien d'entre nous on serait
bien plus avancé
si on avait toujours eu ce baromètre entre nos mains
qui nous permet de séparer la pensée de Florent et la pensée de Dieu,
le cœur de Florent et le cœur de Dieu,
les désirs de Florent et les désirs de Dieu.
Et pour être capable de séparer l'un et l'autre,
pour être capable de discerner l'un de l'autre,
ça vient à travers la parole de Dieu.
La parole de Dieu est le premier instrument de dialogue du Seigneur avec ses enfants.
La parole de Dieu devrait être la première base de nos réflexions,
la première base de nos décisions.
Ça devrait être le premier test à nos émotions, à nos désirs et à nos passions.
Est-ce que ce que j'aime
est effectivement ce que Dieu aime?
Est-ce que ce à quoi j'aspire,
c'est effectivement
ce à quoi Dieu veut que j'aspire?
Est-ce que les décisions que je m'apprête à prendre,
même si elles suscitent
en moi plein d'émotions,
est-ce que c'est nécessairement
la volonté de Dieu?
Et combien de fois on a confondu
nos émotions
avec la pensée sage,
permanente
et éternelle de Dieu.
Combien de fois on a fait passer
nos désirs
avec un langage bien spirituel,
avec des intentions bien spirituelles,
mais foncièrement, ce n'était pas le plan de Dieu
pour moi. Pour moi
ou pour toi.
La parole de Dieu vient donc nous aider
à faire une séparation, une coupure
avec ceux qui sont issus
de mes émotions, de mes désirs,
de mes passions propres,
d'avec ce qui vient directement du trône de Dieu.
Ce passage-là ou cette idée-là va aussi tout parfaitement
avec le fait d'analyser
ce qu'un homme peut dire
de ce que Dieu peut dire.
Et j'ai régulièrement eu l'occasion de vous mentionner,
c'est pas parce que quelqu'un va dire « Ainsi parle l'Éternel » que c'est nécessairement l'Éternel qui parle.
C'est pas parce que quelqu'un se lève
en prétextant qu'il est en train de parler au nom de Dieu
que c'est nécessairement Dieu qui parle.
Combien de fois on se réveille
deux semaines trop tard,
ou quatre décisions trop tard,
et on regarde en arrière en disant j'étais convaincu
que c'était Dieu qui avait parlé.
Et qu'on fait le bilan, quand on l'a parcouru, quand on l'a parcouru, quand on se rend compte qu'en ce moment, on ne s'était pas Dieu. Ce qui vient de « je sens dans mon cœur que » d'avec ce que Dieu a décidé dans son cœur de toute éternité pour moi. Et enfin, il va terminer en disant qu'il partage les jointures des moelles. Les jointures des moelles. Jointure, c'est ces connexions entre chacune des parties de notre vie. La moelle, c'est ce qui fait que nos os sont encore vivants et encore bien portants. Il vient séparer ce qui fait l'ensemble de notre vie. La question pour toi et pour moi, qu'est-ce qui te constitue aujourd'hui? Il y a des gens, si on devait faire la définition d'eux, ils sont quelque chose si professionnellement, ils sont parvenus à un tel point. Il y a des gens qui courent après un statut social. Et tant qu'ils ne sont pas arrivés à ce statut social, ils ont l'impression qu'ils n'existent pas. Tant qu'ils ne sont pas arrivés dans un tel point ou dans un tel environnement au niveau de leur vie, ils ont l'impression que leur vie est éparpillée. Ça voudrait dire que ce qui rassemble ta vie, ce qui la tient en bon ordre, ça serait un emploi, ça serait une condition sociale, ça serait un statut financier, ça serait un niveau d'études, et ça ne serait plus Dieu. Qu'est-ce qui tient ta vie en ordre? Qu'est-ce qui fait de toi ce que tu es? Qu'est-ce qui donne la forme à ta vie? Qu'est-ce qui fait que ta vie n'est pas éparpillée à droite et à gauche? Ça doit être la parole de Dieu. Ce qui nous rassemble, ce qui fait de nous quelqu'un, ça devrait être la parole de Dieu. On se rappelle de ce passage dans Ézéchiel où le prophète va être amené dans une vallée d'ossements. Et Dieu va dire au prophète, prophétise sur ces os. Et on se rend compte que quand le prophète commence à parler aux os, les os qui étaient éparpillés un peu partout vont se rassembler, mais ne vont pas se rassembler en un seul tas. Ils vont se rassembler pour former le bon squelette qu'il devait y avoir. Et il y avait une multitude d'os. Il y avait des os un peu partout, éparpillés. Ça veut dire que le bras de M. A était à droite, puis le pied de M. A était à gauche, son cou était devant, son thorax était derrière. C'était éparpillé un peu partout. Et à la parole de Dieu, à cette parole proclamée, les os vont se rassembler les uns auprès des autres, les uns qui devaient s'assembler spécifiquement auprès des autres. Il n'y a pas mélangé trois corps ensemble. Il n'y a pas mélangé 90 soldats. Ça c'est la main du soldat A avec l'avant-bras du soldat B. C'est quoi l'os ici? L'humérus. C'est bon d'avoir des gens de la médecine avec nous. Avec l'humérus du patient C, avoir l'omoplate du D, avoir le cou du E. Non. Tous les A sont rassemblés, tous les B se sont rassemblés, tous les C se sont rassemblés. Avec quoi? Avec la parole de Dieu qui avait été proclamée.
nos vies ne se tiennent qu'avec la parole de Dieu. Et quand je me prive de la parole de Dieu, je peux effectivement avoir une vie éparpillée. La parole de Dieu va avoir cette capacité à faire la jointure entre chacune des parties de notre existence. Et parfois, les joints qui sont faits, qui ne devraient pas exister, la parole de Dieu va avoir cette capacité à dire « t'es en train de t'assembler avec quelque chose auquel je ne t'ai pas appelé à t'unir ». J'ai entendu un tas de témoignages de gens qui s'apprêtaient à faire des décisions. La maman est là ce soir, mais mon fils, j'utilise ce terme-là, mon fils, à un moment donné, allait se marier. Vous savez pas c'est qui, donc c'est correct. Il allait se marier à un moment donné et s'est rendu compte que c'était pas la bonne décision. Et à quelques semaines du mariage, même si tout était organisé, il est venu me voir en disant « Papa, je m'apprête à faire une erreur, je ne peux pas la faire. » Et ça prend du courage. Mais la parole de Dieu était venue lui dire « Regarde, ce que tu t'apprêtes à faire, ce n'est pas ce que j'ai pour toi. L'union dans laquelle tu rentres, ce n'est pas celle que j'ai pour toi. » Et Dieu lui a épargné d'une grave situation. Un jour, j'entendais quelqu'un, et ce n'est pas biblique, mais il le disait, et ça a plein de sens. Il dit, mieux vaut être tout seul que mal accompagné. Mieux vaut être célibataire que mal marié. Et assurément, Dieu a épargné mon fils d'une telle situation. Mais pourquoi? C'est parce qu'il avait l'oreille attentive à la voix de Dieu. Vous allez me dire, il aurait peut-être pu y penser longtemps à l'avance. Je suis d'accord avec vous. Mais au moins, la parole de Dieu est quand même venue faire l'effet qu'elle devait avoir et lui épargner bien des larmes ultérieures. La parole de Dieu va nous dire, voici là où tu t'unis et je suis d'accord. Voici à ce à quoi tu t'associes et avec le quoi je ne suis pas d'accord. Et dans un tel sens, la parole de Dieu va venir couper ces liens-là. Mais elle va nous dire qu'elle vient aussi jusqu'à séparer les moelles. Dieu va aller au plus profond de notre être. Lorsque dans la pensée judaïque, on parlait de la moelle, on parlait de la chose la plus cachée de l'être. Pourquoi? Parce que fallait se passer non seulement à travers la peau, puis à travers les muscles, puis à travers la couche osseuse, et on arrivait éventuellement jusqu'au centre de toute chose. Dieu a-t-il le droit, avec sa parole, de venir te parler des plus profondes choses de ton être? Dieu a-t-il le droit, à travers sa parole, de venir pointer des aspects tout particuliers de ton existence? La moelle, c'était quoi? La moelle, c'était cette substance dans les os qui permet aux os de se mouvoir, qui amène la décharge électrique nécessaire pour que ton petit doigt puisse se balancer. Si la moelle ne fonctionne plus, ton petit doigt ne bouge plus. La moelle était ce qui te permettait de te mouvoir. Ce qui te bouge aujourd'hui, c'est quoi? Ce qui te permet de bouger aujourd'hui, c'est quoi? Ce qui te fait avancer aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu bouges et tu avances en raison de la parole de Dieu? Ou ce qui fait mouvoir ton corps, c'est autre chose? Parfois, les gens disent « Ah, tu fais le ministère, t'es bien occupé. » Mais savez-vous qu'on peut faire le ministère sans faire la volonté de Dieu? On peut faire un tas de choses sans nécessairement accomplir la volonté de Dieu. On peut faire un tas de choses sans nécessairement avoir les bonnes intentions non plus. Il y a des gens qui font le ministère, mais c'est pour toute la popularité qu'un ministère peut donner, toute la visibilité qu'un ministère peut donner, toute l'attention qu'un ministère peut donner. Pourquoi veux-tu faire ce que tu fais? Pourquoi fais-tu ce que tu fais? Est-ce que Dieu pourrait être en train de regarder au plus profond de toi et dire, tes intentions ne sont pas les bonnes. Tes motivations ne sont pas les bonnes. Tes raisons de faire ne sont pas les bonnes. Et est-ce que Dieu pourrait venir couper dans cela? Si effectivement la parole de Dieu est notre manuel d'opération, si effectivement la parole de Dieu est notre livre d'instruction, si effectivement on calque nos vies à ce que nous dit la parole de Dieu, ça veut donc dire que cette parole, on lui permet aussi de dire ce qu'elle a à dire sur tout aspect et sur toute chose dans nos vies. Dieu a donc le droit de dire, tu fais ton travail, tu le fais bien, mais tu le fais pour les mauvaises raisons. Et de te dire, je ne prends donc pas plaisir à ce que tu fais. Dieu pourrait être en train de te dire, oui, tu obéis à tout ce que j'ai demandé, mais tu le fais au minimum, juste pour ne pas être coupable. Pas parce que tu m'aimes. Pas parce que tu es motivé à faire avancer mon royaume. Mais tout simplement pour ne pas être coupable. Et il y a un tas de chrétiens qui fonctionnent ainsi. La seule chose qu'ils veulent, c'est ne pas être coupable. Ils vivent leur vie chrétienne avec comme seul objectif, je ne veux pas être coupable. Mais en se limitant à ne pas être strictement coupable, tu n'es peut-être pas en train de faire les exploits auxquels Dieu t'a appelé. Parfois, on ne fait pas ce qui est mal, mais on ne fait pas nécessairement ce qui est bien non plus. On s'arrange juste pour être dans cette zone-là où le couperet ne peut pas tomber sur nous, mais où la bénédiction ne peut pas nous atteindre non plus. On a juste fait ce qui était nécessaire pour ne pas être coupable. Mais je n'ai pas nécessairement fait ce que Dieu voulait, et je ne l'ai pas fait nécessairement avec l'attitude qu'il voulait, avec les intentions qu'il voulait. Alors, qu'est-ce qu'on voit ce soir? On voit foncièrement qu'on doit revenir à la parole de Dieu. Et qu'on doit permettre à la parole de Dieu de nous parler sur nous-mêmes. Combien de fois, j'utilise beaucoup cette expression-là ce soir, combien de fois là? Je ne sais pas combien de fois j'ai utilisé combien de fois ce soir. Mais régulièrement, le prédicateur se met à parler, puis on dit, « Ah, si tel frère avait été là! Ah, si telle sœur avait été là! » Parle sur la gourmandise et là, tu as un nom qui te vient. Pas le tien, celui de quelqu'un d'autre. Tu parles de l'avarice et là, il y a le nom de quelqu'un qui vient dans ta tête. Pas le tien, mais quelqu'un d'autre. Tu as toujours l'impression de savoir pour qui s'adresse cette prédication. On devrait avoir l'attitude de dire, Seigneur, je viens écouter ta parole. Qu'est-ce que tu as à me dire à moi? Dieu t'a donné des oreilles sur ta tête à toi, pour que tu entendes pour toi. Ton frère a des oreilles. C'est peut-être pour ça que Jésus, par moment, va dire que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Pourquoi? Parce que parfois, on a des oreilles et on n'entend pas ce que Dieu nous dit. On l'entend pour les autres, mais pas pour nous. Que celui qui a des oreilles entende ce que Dieu dit. On va prier pour terminer ce soir. Seigneur, il n'y a jamais aucun hasard devant toi. Nos vies sont connues d'avance. Et tu interviens au moment approprié. Alors nous n'avons aucun doute, Seigneur, que la parole qui a été prononcée ce soir
était celle que nous avions besoin d'entendre. Aucunement le fruit des circonstances et des situations. Mais tu avais pensé, prévu que ce soir, nous qui serions dans cette salle ou nous qui serions connectés au loin, nous entendrions ces mots. Alors Seigneur, nous ne voulons pas résister à ta voix. Nous prions Seigneur que tu parles à notre sujet. Que ta parole Seigneur vienne vienne à séparer ce qui t'est agréable de ce que tu ne peux bénir dans nos vies. Que ta parole, Seigneur, vienne à pointer des particules même de notre existence. Seigneur, tu viens à séparer ce qui est de nos émotions pures de ce qui vient de toi. Combien de fois on a pris notre volonté pour ta volonté? Combien de fois on a pris nos désirs, nos ambitions personnelles pour ta volonté? Je prie, Seigneur, si mon frère, si ma sœur s'apprêtait à prendre une décision aujourd'hui qui n'est pas celle que tu avais pour eux, je prie, Seigneur, que tu fermes les portes qui doivent se fermer. Seigneur, si mon frère, ma sœur, allait faire un pas qui n'allait pas dans la direction que tu avais pour eux, je prie, Seigneur, que tu retiennes leurs pieds. Je prie que ta parole, Seigneur, puisse être entendue, qu'elle puisse les convaincre. Ta parole nous dit que c'est ton esprit qui convainc de péché. Seigneur, convainc-nous de ta volonté. Convainc-nous, Seigneur, de ce que tu approuves versus de ce que tu désapprouves. Dans nos vies, Seigneur, ne nous laisse pas aller que nous ne soyons pleinement dans ta volonté. Lorsque Moïse, Seigneur, s'apprêtait à quitter Sinaï avec le peuple, après avoir expérimenté la gloire même de Dieu, il va te faire cette prière. Seigneur, ne nous laisse pas aller que tu ne viennes avec nous. Seigneur, si tu n'es pas au-devant de nous, nous ne voulons pas avancer. Si tu ne nous conduis pas, Seigneur, par ta nuée, par ta colonne de feu durant la nuit, nous ne voulons pas avancer. Nous voulons être là où tu veux que nous soyons, au moment où tu nous y veux, en faisant ce que tu nous as appelés à faire. Non pas notre volonté, Seigneur, mais ta pleine et parfaite volonté. Seigneur, je prie que nous ayons cette sagesse de toujours nous tourner vers ta parole, afin, Seigneur, que celle-ci puisse nous réformer là où réformation est nécessaire, afin que celle-ci, Seigneur, puisse venir retrancher de nos vies ce avec quoi nous devons nous séparer. Que ta parole ouvre les portes qui doivent s'ouvrir. Que ta parole ferme les portes qui doivent fermer. Que ta parole garde fermées les portes qui ne doivent pas s'ouvrir. Parle à ma sœur ce soir. Parle à mon frère ce soir. Protège-nous, Seigneur, de nous-mêmes. Protège-nous, Seigneur, de nos pensées faillibles. Protège-nous, Seigneur, de nos intentions et de nos désirs et de nos passions, Seigneur, qui ont été affectés par notre nature pécheresse. Voilà pourquoi nous voulons nous dépouiller de nous-mêmes pour nous revêtir de toi. Conduis mon frère, conduis ma sœur. Seigneur, je bénis tes enfants qui étaient à l'écoute ce soir.
Je bénis ceux qui étaient présents ce soir. Merci de nous avoir parlé. Merci de nous avoir instruits. Ramène, Seigneur, tous et chacun à la maison en toute sécurité. Prends contrôle, Seigneur, des moyens de transport qu'on emprunte. Et durant cette nuit, Seigneur, que tu nous accordes un sommeil paisible, un sommeil profond, un sommeil réparateur, et un sommeil dans lequel, Seigneur, toi seul, mais toi seul, Seigneur, peux parler à notre âme et à notre esprit. Même durant notre sommeil, parle-nous, instruis-nous. Seigneur, nous avons des oreilles, nous voulons entendre ce que tu nous dis. Nous t'avons prié dans le précieux et glorieux nom de Jésus. Amen. Alors voilà ce que le Seigneur avait pour nous ce soir. Que Dieu vous bénisse. Bon retour à la maison. À tous ceux qui étaient au loin, merci d'avoir été avec nous. On vous rappelle que les inscriptions pour l'assemblée de dimanche ont cours. Vous pouvez nous appeler au secrétariat ou nous écrire par courriel pour réserver une place pour ce dimanche. Dimanche dernier, on était presque à capacité pleine. Donc, on espère cette semaine battre ce record. Donc, soyez présents, inscrivez-vous. Que Dieu vous bénisse et bon retour à tous. Que Dieu vous bénisse.